soirée à tous sur Europe 1, il est 22h. Tout de suite, le journal avec Isabelle Millet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous et bienvenue pour cette demi-heure d'infos, édition spéciale puisque nous allons revenir évidemment sur les temps forts de la conférence de presse d'Emmanuel Macron ce soir. Le président s'est adressé aux Français dans un exercice inédit pour lui, inédit et très attendu puisqu'il devait y dévoiler les mesures issues du grand débat en réponse à la crise des Gilets jaunes. Un monologue qui a duré pratiquement une heure, suivi d'une longue séance de questions-réponses. Pour en parler autour de moi ce soir, Mickaël Darmon, éditorialiste politique à Europe 1. Emmanuel Duteil, chef du service économie. Avec nous également Anne-Laure Jumet, Aurélie Herbemont qui ont assisté à cette conférence de presse et qui vont nous détailler toutes ces annonces présidentielles. On sera aussi en ligne avec Frédéric Michaud, directeur du département opinion et politique de l'Institut OpinionWay. Bien sûr, on entendra les réactions après cette conférence, celle des Gilets jaunes en premier lieu, aux côtés de notre correspondant Frédéric Michel, et celle des politiques avec Maude Descamps et Adrien Beck. Alors avant toute chose donc, les annonces, le pouvoir d'achat, préoccupation numéro 1 des Gilets jaunes et des Français en général. Le chef de l'État dit avoir entendu les revendications en matière de fiscalité.
La meilleure orientation pour répondre aux besoins de justice fiscale n'est pas d'augmenter les impôts de tel ou tel, mais plutôt de baisser les impôts du maximum de nos concitoyens, en particulier de toutes celles et ceux qui travaillent au premier chef des classes moyennes. Celles et ceux qui travaillent, qui payent l'impôt sur le revenu, ont été largement mis à contribution durant les dernières décennies. Je serai donc simple, je ne veux pas de hausse d'impôts, et je veux des baisses pour ceux qui travaillent en réduisant significativement l'impôt sur le revenu. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette baisse d'impôts en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique.
Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, promet une baisse de l'impôt sur le revenu. Dites-nous tout, est-ce qu'on a des précisions ?
Alors on a l'enveloppe, telle qu'elle est en tout cas souhaitée par Emmanuel Macron, 5 milliards d'euros dès cette année. Cette baisse d'impôt, elle doit cibler les classes moyennes, a dit le président. On est sur les classes moyennes basses. Les ordinateurs sont en train de tourner à Bercy, mais ça pourrait être de l'ordre de quelques centaines d'euros pour un foyer moyen. Alors comment on finance ces baisses d'impôt ? Le président vient de le dire, en réduisant la dépense publique, en supprimant des niches fiscales. Et là, Emmanuel Macron apporte une précision, les niches fiscales dont bénéficient les entreprises.
Uniquement les entreprises.
Voilà. À celles qui concernent les ménages, par exemple, les crédits d'impôt pour la garde d'enfants ou l'emploi d'une femme de ménage. Et puis le chef de l'État précise que pour financer ces baisses d'impôts, il va, vous l'avez aussi entendu, falloir travailler plus.
Alors, travailler plus, comment ? Ça veut dire quoi ?
Alors, d'abord, le chef de l'État a écarté deux hypothèses. On ne supprime pas un jour férié, on ne revient pas non plus sur la durée du temps de travail. La piste retenue, c'est donc d'allonger la durée de cotisation sans toucher à l'âge de départ à la retraite. Autrement dit, on pourra partir à 62 ans, mais pas à taux plein. Et sur ce point, pour l'instant, on n'a pas de calendrier.
Alors, par ailleurs, Anne-Laure, pour le pouvoir d'achat des retraités, il y a eu ce soir aussi des confirmations et des annonces.
Oui, les retraites de moins de 2000 euros seront réalignées sur le coût de la vie, sur l'inflation, à partir du 1er janvier 2020. Et à partir de 2021, il n'y aura plus de plafond. Ça concernera toutes les retraites. Et puis Emmanuel Macron fixe un objectif, que la retraite minimale pour une carrière complète soit portée à 1000 euros.
Dernière chose, Anne-Laure Jumet, le président se dit prêt à abandonner son objectif de réduction du nombre de fonctionnaires.
Et oui, c'est 120 000 suppressions de postes, vous savez, prévu d'ici la fin du quinquennat. Mais le président a aussi insisté sur la nécessaire présence des fonctionnaires sur le terrain d'ici la fin du quinquennat. Il veut que dans chaque canton, il y ait un lieu pour trouver toutes les réponses que se posent les administrés. Il a parlé de maison France Service. Et donc, il faut être réaliste, a dit le président. S'il n'est pas possible de réaliser cet objectif de 120 000 suppressions de postes, il est prêt à s'en affranchir et il renvoie la balle au gouvernement qui devra lui dire cet été si cet objectif est tenable.
Merci beaucoup Anne-Laure Jumet. À destination des familles monoparentales cette fois, le président veut que les caisses d'allocations familiales recouvrent les pensions alimentaires afin de lutter contre les impayés et d'aider en particulier les mères ou les pères célibataires qui sont en situation de précarité. Un commentaire peut-être, Emmanuel Duteil, sur ces mesures. Pas vraiment de grosses surprises.
Alors, pas de grosses surprises. Une quand même sur le montant de la baisse d'impôts. Puisque jusque-là, ce qu'on entendait plutôt circuler, on était aux alentours de 2-3 milliards d'euros dans ce qui était déjà considéré comme des options hautes. 5 milliards, c'est très très important. Il faut se rendre compte que cette baisse d'impôts va arriver là dès cette année. C'est la moitié de ce que coûtent déjà les toutes premières mesures qui avaient été annoncées au mois de décembre. Donc c'est quand même un geste assez fort.
Assez fort.
Qui va, comme le rappelait Anne-Laure, quand même quelques centaines d'euros pour les gens qui vont être concernés. C'est pas rien. Donc là, c'est un point extrêmement important. Il y a d'autres mesures de pouvoir d'achat. Par exemple, la prime défiscalisée dont on bénéficie, on estime environ un tiers des salariés du secteur privé. Cette prime qui pouvait aller jusqu'à 1 000 euros, elle est pérenniser. Donc c'est aussi un élément de salaire pour ceux qui travaillent. Et c'est peut-être comme ça qu'on pourrait le résumer. Le chef de l'État a voulu envoyer un signal très clair à ces gens qui sont toujours un petit peu au-dessus de la moyenne et qui, du coup, ont l'impression de payer
d'être
un petit peu pour les autres.
Ceux qui sont lésés, oui.
C'est de leur donner un petit coup de main à ceux-là, à ceux qui travaillent. Il l'a très régulièrement rappelé ce soir lors de sa conférence de presse.
Alors, on va écouter tout de suite une autre annonce ou confirmation plutôt d'Emmanuel Macron ce soir qui promet davantage de démocratie représentative.
On a aujourd'hui deux systèmes, il ne faut jamais l'oublier. Il y a l'Assemblée et le Sénat. Le Sénat a déjà une dose de proportionnel. Je pense qu'il faut, dans les deux assemblées, l'accroître. La créer pour l'Assemblée, l'accroître pour le Sénat. Moi, je suis favorable à ce que ce soit autour de 20%. Parce que je pense que c'est ce qui permet de représenter toutes les familles politiques sans créer des situations ingouvernables. Pour les parlementaires, l'engagement que j'ai pris, c'est en effet une baisse de 30%. Je souhaite que la réforme constitutionnelle aboutisse. Et donc j'ai été attentif aux arguments aussi qui ont été tout particulièrement soulignés par le président du Sénat. On a eu beaucoup d'échanges. Et il a des arguments que j'entends, de ne pas avoir trop de départements qui n'auraient plus qu'un seul sénateur, de ne pas alimenter le sentiment qu'il puisse y avoir une distance avec le terrain. Si ce n'est pas exactement 30% et que c'est 25%, sincèrement, je n'en ferai pas un point de blocage.
Voilà, Aurélie Herbemont, vous avez également suivi cette conférence de presse à l'Élysée. Vous en revenez. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Le président, comme ça lui a été demandé d'ailleurs lors du grand débat national, veut donner davantage de place aux citoyens en dehors des élections, même s'il ne retient pas l'idée du fameux référendum d'initiative citoyenne.
Ah, effectivement, Emmanuel Macron dit non au RIC tel qu'il est réclamé par les Gilets jaunes, car il ne croit pas à la République du référendum permanent. En revanche, Emmanuel Macron veut faciliter le déclenchement du RIP, le référendum d'initiative partagée. Alors aujourd'hui, il faut plus de 4,5 millions de signatures, ce qui en fait un outil très très compliqué à mettre en œuvre. Emmanuel Macron propose donc qu'une pétition signée par 1 million de citoyens, c'est déjà plus abordable,
oui,
puisse prospérer en projet de loi ou faire l'objet d'un référendum. Il propose aussi que des référendums locaux puissent être déclenchés par ce même principe de pétition citoyenne. Et pour davantage intégrer les Français dans les décisions, eh bien le chef de l'État annonce aussi la création d'un conseil de la participation citoyenne. Alors c'est quoi ? Eh bien ce sont 150 Français qui seront tirés au sort à partir du mois de juin pour siéger dans cette structure qui viendra compléter la composition de l'actuel Conseil économique, social et environnemental.
C'est pas beaucoup, 150 Français. Emmanuel Macron qui a également évoqué le rapport entre les Français justement et les élites et la réforme de la haute fonction publique.
Ah oui, avec la suppression de l'ENA comme mesure phare. Alors Emmanuel Macron ne veut pas supprimer cette école dont il est issu par plaisir, dit-il, mais pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux. Bref, une refonte radicale de l'école des élites. Alors il ne veut plus faire du rafistolage comme ça a pu être le cas ces dernières années, car si vous gardez les mêmes structures, dit-il, les habitudes sont trop fortes. Voilà donc un ancien énarque qui veut saborder son ancienne école. Emmanuel Macron qui commande par ailleurs un rapport pour revoir en profondeur le recrutement et la gestion des carrières des hauts fonctionnaires.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont. Emmanuel Macron qui a aussi parlé d'environnement ce soir, et c'est important parce que dans son allocution initialement prévue le jour de l'incendie de Notre-Dame de Paris, il n'en parlait quasiment pas. Il annonce la création d'un conseil de défense écologique. Il faut, dit-il, mettre l'urgence climatique au cœur de toutes les politiques. Et puis, pour réduire les inégalités, c'est important également. Le président veut agir dès la petite enfance. Il veut donner à chacun les moyens de mieux réussir. Et ça se concrétisera par l'extension du dédoublement des classes en grande section de maternelle. Il veut aussi des classes qui ne dépassent jamais 24 élèves de la maternelle au CE1. Alors on va écouter votre analyse dans une petite minute, Michaël Darmon. Mais cette conférence de presse, elle était adressée d'abord aux Français. C'est eux qu'Emmanuel Macron a tenté de convaincre après des mois de crise, en particulier les Gilets jaunes, aux côtés desquels vous vous trouvez. Frédéric Michel, vous étiez avec eux pendant que le président parlait sur un rond-point à côté de Fréjus. Comment ces propos, Frédéric, ont-ils été perçus ?
Et rassemblés à deux pas du rond-point qu'ils ont occupé pendant des mois. Les Gilets jaunes, ils étaient une trentaine ici à Fréjus, ont très vite réagi à cette allocution du président et donné de la voix, souvent agacés par les propos du chef de l'État.
Seigneur, franchement.
Il est faux à 100% lui, c'est pas possible ça. Ses paroles, ils sont fausses.
Ça m'énerve. 30 minutes qu'il raconte n'importe quoi. 30 minutes pour rien.
Et même si le président a pris du temps pour s'expliquer et répondre aux questions des journalistes, l'intervention n'a pas convaincu ces gilets jaunes de la première heure. Céline est assistante de vie à Saint-Raphaël.
Je suis affligée et je pense qu'il n'a pas tout à fait compris l'ampleur du mouvement, parce que en fait tout ce qu'il annonce, ça
n'apportera rien par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ils prennent des objectifs politiques, pas avant 2020-21, et les gens, ils meurent de faim maintenant. C'est pas plus tard, c'est là tout de suite. C'est terrible. Les gens vont rester dans la rue, ça c'est sûr.
Et déçu des paroles du président, les Gilets jaunes ont très vite décroché, écoutant à moitié la conférence de presse, préférant débattre entre eux et partager un jus de fruits, des chips et un barbecue. C'était la meilleure manière de nous remobiliser, m'ont confié certains.
Frédéric Michel aux côtés des Gilets jaunes. Alors, on n'a pas de chips ni de barbecue, mais on a Mickaël Darmon avec nous dans ce studio. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir.
Sur le fond, on vient de l'entendre, Emmanuel Macron n'a pas vraiment convaincu les Gilets jaunes.
Hein. Oui, et c'est d'ailleurs la vraie prise de risque politique hein, que prend le chef de l'État ce soir. Il choisit de ne pas répondre justement à toutes les revendications, en particulier celles des Gilets jaunes. On l'a vu sur plusieurs mesures et en disant effectivement d'entrée de jeu, ni entêtement, ni reniement, et nous gardons le cap, nous faisons des bonnes choses depuis 2 ans, eh bien le président de la République choisit clairement de conforter le socle électoral de son premier tour à l'élection présidentielle. Il faut noter que les réformes fiscales, par exemple, sont des propositions, voire parfois des combats qui ont été menés par l'aile gauche de la majorité. De même que le refus donc, de supprimer 120 000 fonctionnaires a pu conforter cette partie donc, de La République En Marche, alors que le pôle droit, qui réclame également une mise à plat donc, des impôts, une baisse des impôts et même une mise à la diète donc, de l'État, parfois pourrait être un petit peu déçu. Mais enfin, il a quand même la baisse des impôts. Surtout, il faut le savoir également, ce soir c'était une étape d'un agenda qui va se dérouler durant maintenant les prochains mois jusqu'à l'été. On va maintenant se concentrer sur les élections européennes. En fonction de ça, très certainement, en tout cas, beaucoup le réclament, une réorganisation gouvernementale, un remaniement, on verra de quelle ampleur, et puis une intervention du président de la République au Congrès, donc devant les deux chambres réunies à l'été, vont continuer encore à lui permettre de détailler et d'expliquer ses mesures. Mais ce qui est important ce soir, c'est effectivement de voir que le chef de l'État a mis en enseigne une phrase. On avait entendu les présidents précédents, notamment un, dire « j'ai changé », lui, il a dit « j'ai appris ». Et il a appris, au fond, que les codes de la politique devaient se respecter. Après le Tour de France devant les maires, il a choisi, dans un décorum un peu gaulien-pompidolien, avec une table, hein, pas le pupitre habituel, mais une table assis, d'expliquer eh bien, que justement, il fallait tourner la page de ces 30 glorieuses, de toutes ces politiques publiques menées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'avaient pas perçu les changements de la société, notamment les familles, comme on l'a vu, notamment la manière de travailler, notamment les révolutions numériques. Et c'est à la fois ce qu'il veut initier, à la fois une accélération et en même temps aussi un ralentissement par la délibération, faire venir les citoyens dans la prise de parole et dans la prise de décision publique. C'est tout le défi d'Emmanuel Macron et on verra dans quelle mesure eh bien, les Français lui donnent la possibilité de le mener.
Et ce qui est marquant, c'est qu'à plusieurs reprises, ce soir, il a aussi fait un mea culpa. Hein.
Oui, absolument. Il a bien compris que...
Droit dans ses bottes, mais quand même, mea culpa.
Mais ce qu'il a compris également, et c'est le résultat d'abord, de l'incarnation du quinquennat et également, je pense, de la particularité de la personnalité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a focalisé des haines et une haine qui est parfois hors norme par rapport à ce qu'on a pu connaître comme rupture un peu classique, courante entre un président de la République et les Français. Là, on assiste quand même depuis 5 mois à une relation parfois très particulière, très tendue. Il a compris, il a dit d'ailleurs, mais ce n'était pas la première fois, mais manifestement ça a du mal un peu à passer, que souvent sa personnalité, ses propos, son style ont pu participer à l'énervement. Changement de méthode, changement de politique, eh bien, c'est aussi pour lui la réponse telle qu'il a expliqué ce soir à ce comportement. Et il pose cette fois-ci eh bien, la deuxième partie de son quinquennat.
Vous disiez qu'il avait focalisé les tensions, notamment lors de l'épisode Benalla, sur lequel d'ailleurs Emmanuel Macron est revenu ce soir.
C'est trop facile de regretter. Est-ce que je pense qu'au moment où j'étais élu, connaissant ce jeune garçon qui avait vraiment du talent, qui s'était engagé dans ma campagne, qui avait son histoire, est-ce que je regrette de l'avoir embauché à l'Élysée ? Non. Parce que je pense que c'était extrêmement cohérent avec les valeurs que je porte et avec ce que je veux que nous fassions. C'est sans doute pour ça que je lui en veux encore plus. Il a fait des fautes, très graves. Il a droit à la présomption d'innocence, aussi. Mais de ce fait, quoique n'ayant jamais été protégé par l'Élysée, qu'il a sanctionné, qu'il a ensuite licencié, et qu'il n'a jamais cherché à le protéger à l'égard de quelques services administratifs ou du grand public, il n'a pas donné une bonne image. Donc je le regrette pour ça. Et je ne regrette pas les choix faits à d'autres moments, parce que je ne savais pas tout. Mais on en a sans doute beaucoup fait sur cette affaire. Peut-être trop.
Voilà donc pour cette explication, cette justification d'Emmanuel Macron autour de l'épisode Benalla. Évidemment, cette conférence de presse, elle a été suivie de près aussi par les adversaires politiques du chef de l'État. Écoutez la réaction ce soir du député du Rassemblement National, Sébastien Chenu.
Emmanuel Macron, non seulement n'a rien compris aux attentes des Français, mais ensuite il nous dit très fièrement qu'il est très, très heureux, très content de la politique qu'il mène et qu'il va continuer et qu'il va l'accélérer. Donc c'est qu'il n'a rien compris aux attentes des Français. Il va accélérer la réforme des retraites, il va accélérer la vente d'ADP, il va accélérer la politique migratoire de regroupement familial. Ça, c'est la réalité des choses. Il prend quelques petites mesures qui sont des mesures des artifices, en réalité, pour pouvoir expliquer qu'il agit. Bref, il passe à côté des choses.
Sébastien Chenu, le député du Rassemblement National, joint par Adrien Beck, pas convaincu non plus le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Pour lui, le président n'a pas su apporter la réponse attendue par les Gilets jaunes et s'est contenté de propositions qui manquent de concret.
Cette intervention m'inquiète face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Emmanuel Macron, dont on prétendait qu'il allait nous annoncer que rien ne serait plus comme avant, nous a annoncé ce soir que dorénavant, ce serait comme auparavant. Il est toujours convaincu que les trajectoires qu'il avait vues prendre le pouvoir sont toujours les bonnes. Or, précisément, je crois que ce que nous vivons depuis 4 à 5 mois, qu'il soit question de la mobilisation des Gilets jaunes sur plus de démocratie, mais aussi plus de justice sociale et fiscale, il n'y répond pas. Et que, par ailleurs, sur la question climatique, par exemple, il n'y a absolument rien, à part de l'initiative individuelle, une énième commission, un conseil de défense écologique, mais aucune trajectoire précise, aucune vision. Tout ça a été finalement assez creux et pas à la hauteur des enjeux.
Voilà le député de la France Insoumise, Adrien Quatennens, joint à l'instant par Maud Descamps. Et nous sommes maintenant en ligne, en direct sur Europe 1, avec Frédéric Michaud, directeur du département Opinion et Politique de l'Institut OpinionWay. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous qui analysez les aspirations des Français par le biais de vos sondages, est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron a répondu ce soir à leurs attentes ?
Oui, je dirais que le diagnostic qui a été dressé par le chef de l'État sur la société est plutôt en phase avec l'expression des Français, en tout cas dans le cadre du grand débat national, quand il parle de l'injustice fiscale, de l'injustice sociale, de l'injustice territoriale, quand il évoque la peur à l'égard des grands changements climatiques, numériques, démographiques, etc. Ça, c'est un discours qui est plutôt conforme aux constats qui ont été dressés. J'ai le sentiment qu'il a plutôt entendu le message qui a été envoyé par les Français, notamment sur la question de la baisse des impôts, mais ce diagnostic ne débouche pas sur un tournant radical. On est plutôt, je dirais, entré dans une
projection à long terme. Oui, c'est ce que nous disait Michaël Darmon.
Mais oui, c'est ça. On reste dans la continuité. Il n'y a pas de reniement. Alors, sauf peut-être sur la question de la baisse du nombre de fonctionnaires. Puis globalement, c'est quand même une fin de non-recevoir qui est adressée aux mesures, aux revendications emblématiques des Gilets jaunes. Pas de vote blanc, pas de vote obligatoire, pas de référendum d'initiative citoyenne, même s'il y a une simplification du référendum d'initiative partagée, et puis surtout, pas de rétablissement de l'ISF.
Est-ce qu'on n'a pas accordé finalement trop d'importance, Frédéric Michaud, à ce rendez-vous finalement ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avant et un après conférence de presse d'aujourd'hui ?
Alors, une conférence de presse, surtout celle-ci qui était la première conférence de presse du quinquennat, c'est toujours un moment important, donc il était normal de lui accorder de l'importance. Et surtout, le chef de l'État, son entourage, le gouvernement, avait dramatisé les enjeux et les attentes autour de cette conférence de presse. Ce qui en ressort, c'est une sorte de grand projet un peu conceptuel, avec deux piliers, l'humanisme, replacer l'homme au cœur du projet, réhumaniser la politique, le patriotisme. Vous avez vu, il a répété à plusieurs fois qu'il voulait cette expression « l'art d'être français », un patriotisme inclusif. Mais au-delà de tout ça, il y a peu d'annonces. On a plutôt le sentiment qu'il a annoncé la reprise de réformes qui avaient été ralenties ou qui avaient été suspendues par le grand débat national, la réforme constitutionnelle, la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites. Tout ça avait déjà été annoncé. La vraie nouveauté, peut-être, c'est dans le changement de la méthode plus que dans le fond du projet. Et là, il y a deux changements qui sont intéressants. Plus de concertation. C'est notamment le cas à travers ce conseil de participation citoyenne. Et puis, plus de proximité dans les territoires. L'annonce d'un nouvel acte de décentralisation et puis l'annonce également de plus de fonctionnaires sur le terrain, ça c'est un changement dans la méthode.
Vous qui avez une annonce, une vision globale de directeur d'institut de sondage, vous la voyez comment la suite? Est-ce qu'il y aura encore des gilets jaunes dans les rues samedi?
Alors samedi, je pense qu'il y aura encore des gilets jaunes, précisément pour répondre aux annonces du chef de l'État. Là, l'idée pour le président de la République, c'était moins de convaincre les gilets jaunes que de parler justement à l'opinion publique. Et nous verrons dans les jours qui viennent si le soutien au mouvement, qui était encore assez élevé, hein, puisque 48% des Français soutiennent encore le mouvement, si ce soutien va décroître. Et dans ce cas-là, ce sera un effet positif de cette conférence de presse et des annonces du chef de l'État.
Merci pour votre analyse, Frédéric Michaud, directeur du département Opinion et Politique de l'Institut OpinionWay, en direct avec nous ce soir sur Europe 1. Je vous pose la même question, Emmanuel Dutheil. Est-ce qu'il a réussi, d'après vous, à se réconcilier avec certains Français, ou est-ce que, dans certaines de ses annonces, il y a le risque qu'il ait au contraire mis le feu aux poudres?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a des annonces qui vont poser problème. Je vais prendre un exemple, c'est le dossier des retraites, puisqu'il a dit très clairement: on ne touche pas à l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 ans. Là, il met fin au débat, parce que certains au sein même du gouvernement se disent, on pourrait peut-être repousser tout ça. Là, il y met fin. Mais il ouvre une brèche qui pourrait faire très très mal, puisqu'il dit qu'il va, pour financer notamment les baisses d'impôts, il va falloir travailler plus. Ça veut dire quoi, travailler plus? Ça ne veut pas dire la suppression d'un jour férié, c'est, il a dit que ce ne serait pas le cas.
On ne touche pas aux 35 heures.
Non, ça va être quoi? Ça va être cotiser plus longtemps. Et bien ça, notamment pour peut-être les gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points, si on leur dit déjà que vous ne gagnez pas très cher tous les mois, mais vous allez travailler un petit peu plus longtemps pour baisser les baisses d'impôts, ça c'est un dossier qui est un dossier sûrement extrêmement compliqué. Et le point le plus important, et notamment d'un point de vue économique, c'est que demain matin, tous nos auditeurs qui nous écoutent n'auront pas un euro de plus directement dans leur poche. Parce que la baisse d'impôts, c'est là, courant de l'année. La réindexation des retraites pour les retraités, c'est 2020. Et pour tout le monde, c'est 2021. Donc il va falloir attendre, et c'est peut-être ça qui va être compliqué, même
à faire vivre pour le
gouvernement, c'est de faire comprendre aux gens que ça va peut-être aller mieux demain et qu'ils les ont compris, alors qu'aujourd'hui, ce sera la même situation pour ceux qui sont mécontents.
On va conclure avec vous, Michaël Darmon. La fonction publique, c'est aussi un dossier sensible, une surprise peut-être, ces annonces ce soir d'Emmanuel Macron.
Oui, parce que durant cette crise, on a beaucoup entendu la critique qui a été émise par donc les manifestants, par les Français sur les ronds-points, les Gilets jaunes, en disant, eh bien, tout cela, c'est parce que nous sommes aussi dirigés par une élite déconnectée qui ne nous comprend plus, qui fait tomber les directives d'en haut. Il y a cette réponse également qui est, une fois de plus, une réponse qui va s'exprimer sur le long terme. On se souvient de la réforme, de la manière dont, du côté de l'école de sciences politiques, comment les concours émanant des ZEB, venant des banlieues, des quartiers difficiles, ont progressivement changé la physionomie de cette école. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais ce qui est paradoxal, en fait, dans cette soirée, cette conférence de presse et cette manière d'Emmanuel Macron de sortir du grand débat, c'est qu'il commence par s'adresser à eux en disant, au fond, je vous ai compris. Voilà, j'ai entendu ce mouvement, il est puissamment soutenu et je vais y répondre. Et dans le même temps, les réponses qu'il formule sont à l'ensemble des Français et ne s'adressent pas aux Gilets jaunes. Il met de côté, après l'avoir dit « j'ai entendu », il met de côté les principales revendications les plus symboliques, telles qu'on vient de le comprendre, et il reprend son projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, après 2 ans de mandat, un président oublie un peu son programme et se transforme en président de la République. Et là, on a l'impression qu'il revient au diagnostic premier de sa campagne. On verra dans quelle mesure il sera capable, effectivement, de la mettre
et on verra ce que ça donnera également samedi dans les rues. Merci beaucoup à vous, Michaël Darmon. Si. Merci à Emmanuel Dutheil. Voilà ce que l'on pouvait dire. On continuera à analyser et à commenter cette conférence de presse dans la matinale d'Europe 1. Demain, évidemment, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, sera l'invité de David Doucan à 8h15. Je voulais remercier toutes les équipes mobilisées sur le terrain, les reporters, les correspondants, les services politiques et économiques.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Allez, on va quand même s'intéresser rapidement aux autres grands titres de l'actualité de ce jeudi. Dans un instant, on sera avec Elena Morna pour la météo. L'actualité, c'est aussi Carlos Ghosn qui est sorti de prison cet après-midi. Le tribunal de Tokyo avait approuvé un peu plus tôt sa libération sous caution. 4 millions d'euros, liberté très encadrée, car contrairement à la fois précédente, Carlos Ghosn n'a pas le droit, pour le moment en tout cas, de voir ni même d'entrer en contact avec son épouse. Une contrainte qu'il juge cruelle et inutile. Autre libération aujourd'hui conditionnelle, celle accordée à Jean-Claude Roman, le faux médecin condamné à perpétuité pour avoir tué sa famille, son épouse, ses deux enfants, ses parents. Décision de la cour d'appel de Bourges, libération conditionnée à une période de placement sous surveillance électronique probatoire. Aux États-Unis, le démocrate Joe Biden se lance dans la course à la Maison-Blanche. Réaction cinglante de Donald Trump. « Bienvenue dans la course, Joe l'endormi », écrit-il sur Twitter. « J'espère seulement que tu as suffisamment, intelligent, ce dont on doute depuis longtemps pour remporter la campagne de la primaire. » Et puis le casting du prochain James Bond se précise avec pour la dernière fois Daniel Craig en 007 et notamment la présence de l'acteur Rami Malek. Vous savez, c'est lui qui a obtenu l'Oscar pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Il pourrait interpréter le méchant face à Daniel Craig. Au casting également, le retour de la Française Léa Seydoux. On ne connaît pas encore le nom de ce nouveau James Bond. La météo, comme promis, avec vous Elena Morna. Et vous nous annoncez, Elena, une lente, très lente amélioration sur les régions de l'Est.
Bien oui, Isabelle, on n'en a pas tout à fait fini avec les orages qui éclatent encore entre le centre et l'est du pays. Orages localement intenses, tandis que le vent commence à bien baisser. Demain, les dernières averses de pluie ou de neige à basse altitude s'orniront par les frontières de l'Est. Le ciel s'éclaircira, mais on aura toujours un risque orageux. Beaucoup mieux sur le littoral méditerranéen qui renouera avec les éclaircies. Le vent qui vire au nord. Belles éclaircies aussi sur le nord-est l'après-midi, ainsi que sur le littoral nord-atlantique. Ailleurs, on aura un ciel changeant, tantôt une éclaircie, tantôt une averse, parfois un orage. Beaucoup plus sur une grande partie sud-ouest, sous un ciel chargé, des ondées localement orageuses et du vent. Le tout dans une atmosphère qui fraîchit. 11 à Aurillac demain après-midi, 14 à Quimper et Toulouse, 15 à La Rochelle, Clermont-Ferrand et Biarritz, 16 à Évreux, Strasbourg et Bordeaux, 18 à Lille, Paris et Lyon, 19 à Marseille, 20 degrés à Perpignan. Votre week-end restera tourmenté, météorologiquement parlant, avec beaucoup de vent au nord de la Seine samedi, un bon passage pluvieux du nord-ouest vers le sud et l'est entre samedi et dimanche. Le pourtour méditerranéen sera épargné. Retour des éclaircies après la pluie dimanche sur l'ouest, mais nouvel épisode pluvieux en fin de journée sur la Bretagne.
La météo signée, Elena Morna,
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. À tout de suite.
22h, 22h30. Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h27, on salue Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Les marchés sont partagés ce soir à Wall Street après des résultats d'entreprises mitigés.
Oui, ça baisse pour le Dow Jones. L'indice perd encore 0,51%, 26 462 points. Ça monte en revanche pour le Nasdaq grâce aux bonnes performances de Facebook et de Microsoft. Plus 0,21% pour le Nasdaq, 8119 points. C'est donc du solide pour Facebook qui flambe de 5,8% après ses résultats trimestriels. Le réseau social semble retrouver la confiance des marchés malgré les scandales à répétition sur les données personnelles. Les résultats sont supérieurs aux attentes aussi pour le géant Microsoft. Le titre Microsoft bondit de 3,3%. Mais il y a aussi une grosse déception pour le groupe 3M. 3M fabrique par exemple le scotch, le ruban adhésif ou les post-it. Et la valeur, elle plonge, Isabelle, ce soir de 13%. Les bénéfices ne sont pas à la hauteur. 3M, elle va supprimer 2000 postes dans le monde. Donc la sanction, elle est sans appel en bourse. Côté devise, l'euro est au plus bas depuis avril 2017. L'euro plombé par une accumulation de mauvaises nouvelles pour l'économie de la zone euro. Et la devise recule de 0,12% à 1,1134$.
Et le CAC 40, lui, enchaîne une deuxième séance dans le rouge avec, comme à New York, Claire, beaucoup de résultats d'entreprise.
Oui, le marché parisien poursuit sa pause. Le CAC 40 perd 0,33%, 5558 points. Ce sont en effet les résultats des entreprises qui ont animé encore la séance. Résultat mitigé là aussi. C'est la douche froide pour BIC qui plonge de 8%. Le groupe a débuté l'année avec des résultats faibles, affectés par son activité papeterie en Inde et les briquets aux États-Unis. Peugeot perd 3%. PSA est resté pénalisé en ce début d'année par ses activités hors d'Europe, notamment par l'arrêt de sa production en Iran. Et puis sanctions aussi pour l'équipementier télécom Nokia qui plonge de 9%.
Et Carrefour a terminé en tête du CAC 40.
Oui, Carrefour fait partie des bons élèves du jour avec un point trimestriel considéré comme encourageant par le marché. Le titre du distributeur gagne 3,5%. Résultat bien accueilli aussi pour Michelin qui s'adjuge 0,7% ou pour Atos en hausse de 1,2%. Ça baisse sur les marchés en Europe ce soir. Londres perd 0,5%, Francfort moins 0,2%, Bruxelles moins 1%, Milan est stable. L'exception du jour, c'est Madrid avec une hausse de 0,5%. Et le CAC 40, lui, perd 0,3%, 5558 points. Claire Lemaître de boursier.com, toujours parfaite, même, surtout même le jour de son anniversaire. Bon anniversaire, Claire.
Merci, Isabelle.
Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. On va beaucoup parler d'Emmanuel Macron, évidemment. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Évidemment, la plupart des journaux reviennent sur cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, dont le visage souriant s'affiche à la une de Libération avec ce titre. Il est où le waouh ? Malgré quelques annonces notables sur les retraites, la proportionnelle ou les services publics, le discours de Macron face à la presse ne marque pas le tournant annoncé à l'issue de 3 mois de grands débats. C'est donc l'analyse de Libération. Pour le Figaro, Macron trace les contours de sa nouvelle ambition. Le président de la République a défini 4 grandes orientations de réforme pour lancer un nouvel acte de décentralisation, réduire les impôts et les injustices sociales, préserver l'environnement et défendre le modèle français. Fiscalité, retraite, institutions, les choix de Macron, titre quant à eux les Échos, qui résument en une l'essentiel. Le chef de l'État promet une baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros pour les classes moyennes. L'âge légal de départ à la retraite est inchangé, mais la durée de cotisation allongée. Macron, résilient de la République, titre l'Opinion. Je me fiche de la prochaine élection, a dit le président ce soir. Il assure qu'il ne songe pas pour l'instant à briguer un nouveau mandat, mais qu'il souhaite furieusement réussir son quinquennat. Et puis dans l'Est éclair, l'édito de Jean-François Laville. Emmanuel Macron a-t-il répondu aux attentes des Français ? A-t-il renversé la table ? A-t-il changé sa trajectoire au risque de désavouer l'action menée depuis 2 ans ? Après 1 heure de monologue, la réponse apportée ce soir est claire, dit le journaliste. Il n'a ni l'intention de se renier, ni de mettre un terme aux réformes. Non seulement il considère que le gouvernement ne fait pas fausse route, mais au contraire, il estime que les réformes ne sont pas assez rapides ni radicales. Est-ce de nature à calmer la grogne sociale ? Pas sûr. Voilà donc pour ce tour d'horizon des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée, l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Béthers pour la Libre Antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Je vous retrouve à 23h pour faire un nouveau point sur l'info.
Absolument.